Bonjour et merci de votre présence sur ces Imaginales. On reçoit donc aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec lui dans des tables rondes, mais là c'est un entretien personnel avec Victor Dixen. Alors Victor est un ami du festival, on peut le dire, comme un certain nombre d'auteurs qui sont là depuis, or certains depuis 2002, ceux qui étaient là tout au début, et d'autres qui sont rentrés en littérature un peu plus tard et qu'on a découvert au fur et à mesure de nos lectures, et avec qui on a trouvé un terrain de passion commune pour la littérature, nous un goût pour leurs livres, et eux, je pense, mais pas besoin de nous le dire, je crois, puisqu'ils l'ont dit dans d'autres moments, un bien-être à être aux Imaginales et à trouver cette façon de fonctionner du festival agréable et instructive. Donc ces rencontres littéraires nous permettent chaque année d'avoir un coup de cœur. C'est tout bête, le coup de cœur, c'est... directrice artistique du festival qui assume ses responsabilités et qui, parmi tous les auteurs de talent qu'on invite ici, au-delà des prix littéraires qui sont décernés par le jury, dont je ne fais pas partie, tout à fait indépendant des Imaginales, qui décerne donc un certain nombre de prix, il y a un auteur sur lequel on donne un coup d'éclairage, où on dit « voilà un écrivain et des livres qui nous semblent bien refléter l'intérêt » de ces littératures d'imaginaire. Voilà un auteur dont on pense que, tant pis s'y rougit un peu, que mais la barbe aidera le cacher, c'est la petite différence par rapport à l'an dernier, plus une nouveauté. Victor Dixen est un de ceux qui, depuis quelques années, alors excusez du peu, Charlotte Bousquet, Jean-Philippe Jaworski et quelques autres, sont les coups de cœur du festival. Je vous renvoie d'ailleurs à l'anthologie que j'ai commise l'an dernier chez ActuSF, qui présente les 10 coups de cœur de ces 10 dernières années du festival, la prochaine anthologie dans 9 ans avec 10 auteurs, dont Victor Dixen. Donc Victor Dixen est un auteur pour la jeunesse, c'est en tout cas comme ça qu'on le caractérise, publié alors tout d'abord aux éditions Gossevitch et ensuite repris en poche aux éditions Gallimard avec Le cas Jacques Spark, une tétralogie, 4 romans de littérature de fantasy jeunesse, et puis un grand roman, apparemment unique, mais n'est pas impossible, je me suis laissé dire, et on y reviendra, qu'il pourrait y avoir une prolongation, même si le roman se boucle complètement, Animal, avec un E, sous-titré La malédiction de Boucle d'or. Vous voyez bien que ça fait tout de suite référence à un conte, mais je laisserai Victor vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Il a une connaissance du conte beaucoup plus importante que la mienne. Un très beau roman de fantasy et aussi une magnifique couverture. L'auteur de la couverture ?
Mélanie Delon, que j'ai rencontrée aux Imaginales, en fait, il y a 2 ans, et j'étais très sensible à son style. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'imagine pour ce livre. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on en est arrivé à faire la couverture ensemble. Donc les Imaginales ont aussi permis d'arriver à cette belle couverture.
Et puis, Victor Dixen, vous aviez, pour appuyer la sortie d'Animal, donc ce roman dont on va largement parler, vous aviez écrit une novella que vous aviez publiée en numérique avec Gallimard. Et puis, je l'avais lu, c'est une novella qui se situe un petit peu avant la période d'Animal, qui est un spin-off, mais comme on dit, mais qui est quand même totalement indépendant là, vraiment, où on retrouve un des personnages, la jeunesse d'un des personnages qu'on verra dans Animal. Et puis, c'est un texte un peu plus adulte et un texte qui se situe aussi dans un univers, on va dire, fantasy ou fantastico-historique, puisque ça se passe à l'époque de la tentative de conquête de la Russie et la retraite de Russie de 1812. Tambour dans la nuit, une novella magnifiquement illustrée et éditée par un petit éditeur de grande qualité, très présent aux Imaginales, qui s'appelle les éditions Griffes d'encre. Et ce texte est donc sorti exprès pour les Imaginales, un tirage limité à 500 exemplaires. Donc là aussi, pensez pas à l'acquérir dans 1 ou 2 ans, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est l'occasion pendant le festival de vous procurer ce magnifique texte qui est vraiment une très belle leçon d'histoire et d'imaginaire. Victor Dixen, vous avez une biographie un peu particulière. Vous avez commencé avec l'imaginaire dans un parc d'attractions. Alors, puisqu'on connaît un peu l'anecdote, mais peut-être pas tous nos lecteurs, Qu'est-ce qui fait que vous êtes écrivain? Le fait que vous avez du temps, entre autres, pour écrire la nuit, vous êtes légèrement insomniaque. Et comme vous en parlez très librement, j'hésite pas à vous interroger pour démarrer notre entretien sur cette petite part de biographie. Racontez-nous l'anecdote et comment ça a pu à la fois vous bousculer comme jeune garçon et à la fois vous donner un rapport à l'imaginaire très original.
Oui, alors c'est vrai que je dors très peu et j'utilise mes insomnies pour écrire et tout remonte à un épisode de mon enfance. Mon père est danois et je passais beaucoup de temps enfant avec mes parents les étés à aller au Danemark, notamment à Copenhague. Et lorsque j'avais 8 ans, je suis allé au parc d'attractions de Tivoli, qui est un des plus vieux parcs d'attractions du monde, un très beau parc entièrement en bois. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous y invite parce que c'est vraiment un lieu enchanteur. J'ai échappé à mes parents, je ne me souviens plus exactement des circonstances. J'ai réussi à m'embarquer sur les montagnes russes, qui sont elles aussi entièrement en bois. Je crois que ce sont les plus vieilles du monde. Et j'en ai fait le tour un nombre de fois dont je ne me souviens pas, mais qui m'a sans doute un petit peu retourné, parce que le soir même, dans la chambre d'hôtel, j'ai fait ma première crise de somnambulisme. Et depuis cette époque, j'ai toujours eu du mal à dormir, ou plus exactement, je me réveille très tôt. Très tôt la nuit, donc j'ai tenté tout un tas de thérapies pour régler ce problème. J'ai fait des nuits en clinique du sommeil. On vous met des électrodes sur la tête, des sangles thoraciques, abdominales pour tout mesurer. On a mis tout ça en équation, on n'a pas vraiment trouvé la solution, on n'a pas vraiment trouvé l'origine des insomnies. Quand j'étais adolescent, je luttais vraiment contre ça, je voulais absolument dormir parce que j'avais l'impression de ne pas être normal. Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit que ces heures de la nuit que j'avais en plus, je pouvais les utiliser à faire quelque chose et à écrire. Et c'est comme ça qu'est né mon premier roman, Jack Spark, qui raconte justement l'histoire d'un adolescent insomniaque. Donc il y a peut-être une petite part autobiographique à travers cela. Et puis c'est devenu un rendez-vous. Maintenant, tous les matins, quand je me réveille, vers 3-4 heures, je me mets à ma table de travail. Il n'y a rien d'autre qui existe que l'histoire que je suis en train d'imaginer. Tout est silencieux. Et pour moi, c'est devenu un mode de vie, pour ainsi dire.
Et voyons ce que ce mode de vie un peu original nous donne. Animal, donc, chez Gallimard Jeunesse. Je rappelle que l'an dernier, on avait présenté en avant-première le roman et lu des extraits. C'est dire à quel point on était passionné par le travail littéraire de notre invité. Chaque jour, le repas de midi était suivi d'une courte récréation avant la reprise des leçons. Les demoiselles passaient habituellement ce quart d'heure à prendre l'air dans le jardin. Blonde, qui avait pour consigne stricte d'éviter le plein air et les efforts, les attendait alors dans la salle de classe. Mais ce jour-là, elle profita de la récréation pour remonter à sa chambre et pour reprendre la lecture du dossier, là où elle l'avait interrompu la veille. Assise au bord de son lit, elle sortit le rapport d'enquête de la chemise cramoisie et l'entrouvrit sur ses genoux. Ce fut ainsi qu'elle quitta Sainte-Ursule pour replonger dans les profondeurs de la forêt vosgienne sur les traces de Gabriel de Brance. Je marchais toute la journée droit devant moi. Puisque j'ignorais totalement où j'étais, j'avais formé le projet de fendre la forêt en ligne droite jusqu'à en émerger. Elle devait bien en avoir une fin. Lecteur, vous mesurez sans doute la folie d'une telle résolution qui m'apparaît rétrospectivement. La forêt ne pouvait être éternelle, certes, mais qui me disait qu'elle ne s'étendait pas sur des lieux et des lieux? Sans carte ni boussole, comment m'assurer que j'avançais toujours dans la même direction? Cependant, j'étais épuisé après la nuit passée sur le chêne et incapable de penser à autre chose qu'à la fuite. Plus je progressais, plus les frondaisons au-dessus de ma tête s'épaississaient. Des sapins se mêlaient au chêne. Le soleil perçait difficilement leur manteau d'épines. Il ne parvenait pas vraiment à réchauffer l'air humide. Un épais tapis de mousse étouffait le bruit de mes pas. Il en émanait une odeur mouillée qui me rappelait celle de la mer Baltique, au cours de laquelle j'allais parfois en villégiature avec mes parents, du temps que j'étais enfant, en Prusse. Les troncs couverts de moisissures, les rochers mouchetés de lichens, tout autour de moi était vert, bleu et suintant comme une grotte marine. Ces indications vous aideraient-elles à me retrouver, lecteur? Ce ne sont que les souvenirs flous d'une créature effarée, terrassée par la fatigue et par la faim. Dans les profondeurs où je m'enfonçais, il n'y avait ni myrtille, ni framboise, ni aucune baie que je connusse. Soudain, elle m'apparut. La chaumière, posée au fond d'une combe où chuintait un fin ruisseau. Aucun rayon de soleil ne filtrait jusqu'à ce creux sombre. Au contraire, J'avais l'impression d'avoir découvert la source d'où émanaient les ténèbres baignant cette partie de, de la forêt. La chaumière elle-même se détachait faiblement dans la pénombre, tel un galet sous la surface de la mer. En réalité, c'était plus une maisonnette qu'une véritable maison, une masure aux murs blanchis à la chaux. Le toit de paille, plus imprégné d'humidité qu'une éponge, avait viré au vert de gris. Des fougères et des herbes folles y poussaient de manière anarchique. Je tombai à deux reprises en descendant le talus escarpé. La terre, grasse et glissante, se dérobait sous mes escarpins, giclée sous ma robe, si bien que je parfins au fond de la combe, couverte de boue. Vue de près, la chaumière semblait encore plus délabrée que je ne l'avais imaginée. De larges fissures striaient les murs, au creux desquels la végétation sauvage avait aussi repris ses droits. Les fenêtres étaient étroites comme des meurtrières. Leurs carreaux étaient fêlés, et derrière eux, les rideaux de dentelle grossière paraissaient aussi gris et détrempés que des serpillières. Je me persuadais que la chaumière était abandonnée. Depuis des années sans doute, depuis un siècle peut-être, elle avait dû accueillir autrefois un bûcheron solitaire ou un ermite misanthrope avant d'être engloutie dans le gouffre de l'oubli. Par réflexe, je frappai à la porte. Geste absurde, mes coups contre le panneau vermoulu résonnèrent dans le vide et bien sûr, personne ne va m'ouvrir. Le silence retomba dans la combe, seulement troublé par l'écoulement du ruisseau anémique. J'avais l'impression d'entendre le rire d'un lutin sylvestre, un gargouillement vibrant à travers un gosier trop étroit. Comme si la forêt tout entière se réjouissait de ma détresse. Je laissai tomber ma main sur la poignée de fer. Contre toute attente, elle céda en grinçant, la porte n'était pas verrouillée. Ce fut ainsi que j'entrai dans la chaumière comme un moucheron entre dans la gueule d'un crapaud. La cloche marquant la reprise des cours fit sursauter Blonde. Elle s'aperçut que ses mains étaient cramponnées à la liasse que Gabriel de Brance, 18 ans auparavant, avait embouteillée et envoyée dans le ruisseau derrière la chaumière de la forêt. Quels yeux s'étaient posés sur ses feuilles au cours des années? Qui d'autre que le commissaire Chapon avait lu ces lignes? Quelqu'un avait-il tenté de sauver Gabriel ou bien avait-elle écrit tout ceci qu'en pure perte? Le titre du rapport ne laissait malheureusement pas beaucoup d'espoir. Enquête sur la disparition de Madame Gabrielle de Valrémy. Il était daté de mai 1815, soit un an après la jeune fille dans la sinistre chaumière. Mais si elle n'en était jamais ressortie, alors comment avait-elle pu se marier et prendre le nom de son époux? Voilà, j'ai choisi cet extrait. Je trouvais qu'il avait le mérite de nous permettre à la fois de découvrir le personnage de Blonde, de comprendre qu'elle était au couvent, de comprendre qu'elle lisait un document qu'un personnage, le commissaire, lui avait remis. Et puis ce récit, à l'intérieur du récit, met en scène une femme dont on se demande quel est le lien de l'héroïne avec elle. Et ce passage qu'elle raconte, évidemment, à votre façon, c'est le conte aux boucles d'or. Essayez de nous expliquer un peu tous ces éléments et peut-être commencer, si vous voulez bien, Victor Dixen, puisque c'est sous-titré La malédiction de boucles d'or, de nous dire comment Animal est venu à partir de la lecture, ou plutôt de la redécouverte d'un conte.
Alors c'est intéressant que vous ayez choisi cet extrait, parce que moi je me nourris beaucoup de mes rêves pour mon inspiration, et en particulier pour Animal, j'ai fait un rêve très simple, un rêve qui était centré sur cette chaumière, et que j'ai retranscrit dans ce passage en particulier. Dans mon rêve, je voyais cette chaumière donc perdue dans une forêt profonde, très obscure. J'essayais de m'en approcher sans jamais atteindre la porte, sans jamais pouvoir la pousser. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai repensé à ce moment-là au conte de Boucle d'Or. Et je me suis dit, mais cette chaumière, c'est celle du conte de Boucle d'Or, un conte dont j'avais gardé un souvenir un peu vague. On avait dû me le raconter quand j'étais enfant. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai lu. C'est un conte très, très court. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas vraiment de fin. C'est-à-dire qu'à la fin du conte, entre guillemets, Boucle d'Or est découverte par les trois ours, elle saute par la fenêtre et elle disparaît dans la forêt. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de fin fermée, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, ça, pas dans le conte de Boucle d'Or. Et moi, en tant qu'écrivain, ça m'a énormément stimulé. Je me suis dit, il faut que je retrouve la trace de Boucle d'Or, il faut que je retrouve qui elle était, que je lui trouve une biographie, et je me suis lancé dans l'écriture de ce roman comme on se lance dans une enquête, finalement. Donc c'est de là qu'est venue l'inspiration. Et dans mon travail d'enquête, je me suis rendu compte que le conte de Boucle d'Or avait été écrit pour la première fois à la moitié du 19e siècle. Donc c'est devenu une évidence qu'il fallait que je situe mon roman à cette époque-là, après la fin de l'épopée napoléonienne, et c'est le décor que j'ai choisi pour Animal.
Est-ce que, là aussi, toujours d'après cet extrait, vous pouvez peut-être brosser rapidement, sans trop te révéler de choses, Qui est Blonde, ce personnage? Il y a des choses qu'il faut dissimuler au lecteur, mais ça, vous allez le savoir vous-même. Et quel est ce personnage exactement? Quelle est cette époque, 1815 et après 1815? Pourquoi vous avez choisi ce mode, cette époque post-napoléonienne pour y enfermer votre héroïne?
Alors, je vais commencer par répondre sur qui est Blonde, effectivement. Qui est Blonde, lorsqu'on la découvre au début du roman? C'est une couventine, donc une jeune femme qui est élevée dans un couvent où elle a été déposée à sa naissance par des mains anonymes. Elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Ça fait 17 ans qu'elle est élevée par les sœurs dans ce couvent de Sainte-Ursule, qui est perdu dans la forêt vosgienne. Et elle est destinée elle-même à prendre le voile lorsqu'elle aura atteint ses 18 ans. Alors, il y a également d'autres couventines qui sont élevées à Sainte-Ursule, mais ce sont des jeunes filles de bonne famille, des jeunes filles de la noblesse qui passent juste quelques années au couvent pour parfaire leur éducation avant de se marier. Ce sont bien sûr des mariages arrangés à l'époque. Donc Blonde, elle, n'a pas cette possibilité. Elle pense qu'elle devra rester toute sa vie au couvent. Jusqu'à ce qu'effectivement un homme pénètre par effraction dans sa cellule un soir, un homme très inquiétant, un vieil homme hirsute, qui lui remet un dossier, le dossier dont nous avons lu un passage tout à l'heure, un dossier qui détient peut-être les clés de son passé. Maintenant, en ce qui concerne l'époque, en écrivant Animal, j'ai voulu écrire un roman romantique au sens historique du terme, un roman gothique. Et l'époque des années 1830, pour moi, c'est une époque charnière entre la fin des grands idéaux, des grandes envolées héroïques de l'ère napoléonienne, et puis l'époque plus bourgeoise de la monarchie de Juillet où les gens finalement sont plus pragmatiques. Et Blonde, elle se situe à la charnière entre ces deux tendances, le choix finalement de se ranger dans la vie du couvent qui est toute tracée à l'avance, sans risque mais aussi peut-être sans passion, et la possibilité de s'enfuir, la possibilité d'embrasser son destin avec le risque, le danger que ça comporte, mais aussi la possibilité de devenir qui elle est vraiment.
Continuons à entrer dans le roman. Un autre extrait qui, là aussi, ne révèle pas trop de choses, mais nous donne une tonalité. Vous avez lâché vos cheveux. Ce furent les premières paroles de Sœur Félicité lorsqu'elle entra dans la chambre. Pour la première fois, Blonde avait oublié d'enfermer sa chevelure dans un chignon. Est-ce Grégorius qui vous l'a demandé pour les besoins de la séance de pause ? La jeune fille se garda de détromper l'officière des chambres. Elle aimait le contact nouveau de ses boucles épaisses contre ses épaules. Elle ne s'était jamais rendu compte que ses cheveux étaient si lourds, si soyeux. « Oui, répondit-elle, je vais prendre mon ruban dans ma poche pour renouer mes cheveux plus tard. » Les cadettes étaient déjà en salle de classe lorsque Sœur Félicité et Blonde pénétrèrent dans le cloître, au-dessus duquel le toit du ciel s'éclaircissait à vue d'œil. Maître Grégorius et son apprenti étaient occupés à fixer de nouvelles mains au poignet de la statue, jointes en oraison, comme il scia une abbesse. La lampe tempête qu'ils avaient posée contre la poitrine de la sainte, pour y voir plus clair, correspondait moins aux critères de la statuaire catholique. Sœur Félicité tout sauta pour signaler leur arrivée deux hommes. Gaspard se retourna d'un bond. Un sourire illumina son visage concentré qu'il réprima aussitôt, mais pas assez vite pour échapper à la vigilance de Sœur Félicité. « Eh bien, messieurs, nous voici, » dit-elle en s'asseyant au pied d'une colonne à la lisière du cloître. « J'ai l'impression que j'ai bien fait de venir. » La sculpture du nouveau visage de Sainte-Ursule débuta quelques minutes plus tard, pendant que prenait le ciment liant ses nouvelles mains. « Mon apprenti Gaspard est très doué pour ses 19 ans, » expliqua Maître Grégorius. « C'est la raison pour laquelle je me fatigue à le former. À mon âge, je pourrais tranquillement attendre à l'atelier que les clients viennent sonner à ma porte. » Bien qu'elle n'eût jamais quitté l'enceinte du couvent, Blonde pouvait déceler une pointe d'exotisme dans la voix bourrue du maître compagnon, quelque chose qui roulait, qui chantait, qui parlait d'un autre pays que la froide vallée de la Moselle. « Je tiens à ce qu'il réalise lui-même le visage de la statue. Ce sera une bonne préparation au chef-d'œuvre qui lui permettra de gagner officiellement le titre de compagnon. » Sœur Félicité fit la moue. Manifestement, elle estimait que la sainte méritait l'attention d'un artiste achevé et non d'un débutant. Cependant, elle se garda de tout commentaire car, après tout, les caisses du couvent étaient vides et les deux sculpteurs œuvraient gracieusement. Maître Grégorius fit asseoir Blonde sur un petit tabouret devant un étau en serrant un bloc de pierre récupéré au cours de la réfection du grand escalier du couvent. De quelques gestes secs et sûrs, accompagnés de peu de mots, il guida le burin de son apprenti pour dégrossir la pierre. De temps à autre, il demandait à Blonde de tourner légèrement la tête pour mieux accrocher la lumière. À deux reprises, il souleva même les boucles qui lui retombaient sur le front avec une délicatesse que ses grosses mains calleuses n'auraient jamais laissé soupçonner. Surtout, il lui retira ses lunettes au vert teinté. Dans un premier temps, la lumière du matin aveugla Blonde si fort qu'elle faillit protester. C'est qu'elle a vécu tant d'années dans le halo azuré. Mais peu à peu, ses yeux surmontèrent la douleur de l'éblouissement, l'émerveillement de découvrir les véritables couleurs du cloître qui lui était si souvent apparu noyé dans un bleu indistinct, l'emportant sur l'inconfort. Elle ne réclama pas ses lunettes. Durant de longues heures, ni le modèle ni le sculpteur n'échangèrent la moindre parole. Pourtant, il se jouait entre eux un dialogue muet, dont les mots se réduisaient à des battements de cils, à la dilatation infime d'une pupille, au frémissement d'une narine, parfois. Blonde sentait le regard de Gaspard l'effleurer d'un vol de papillons, à la fois timide et audacieux. Elle le sentait passer sur son corsage, sur sa taille prise dans la ceinture, le long de ses jambes enserrées dans la robe de serge grise, pour revenir toujours à ses yeux, sans oser les croiser plus d'un instant. Faire sœur Félicité s'en serait sans doute offusquée si elle n'avait été assise à contre-jour, éblouie par la luminosité matinale. Après des mois de grisaille, le soleil avait pour la première fois percé les nuages. En ce matin de mars, c'était comme si le ciel était complice de Blonde et de Gaspard. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites, Victor Dixen.
Oui, alors effectivement, Blonde, comme je le disais, c'est une jeune femme qui est destinée à prendre le voile et qui est déjà, qui a vécu en fait toute son enfance emmitouflée dans des châles. Elle est tout le temps, elle a tout le temps froid, elle est frileuse. Les sœurs prétendent que la lumière du soleil lui serait nocive parce qu'elle est d'une constitution très fragile, donc on lui a confectionné des lunettes de soleil, peut-être un peu comme les miennes, avec des fragments de vitraux. Donc finalement, elle a toujours été un peu avec une distance par rapport au monde. Elle n'a jamais vécu les événements en direct, jusqu'à l'arrivée donc, de ce vieil homme qui lui remet le dossier d'enquête. Et le lendemain, un maître compagnon et son apprenti arrivent au couvent. Donc, c'est la deuxième rencontre qui va également déclencher les événements qui vont mener Blonde à découvrir son destin. Ces deux maîtres artisans vont réfectionner le grand escalier du couvent et également la statue de la sainte patronne, Sainte Ursule. Alors les sœurs doivent trouver un modèle pour pouvoir sculpter à nouveau le visage de la sainte. Il est hors de question de prendre l'une des couventines, donc les filles de familles nobles qui payent une monnaie sonnante et trébuchante pour que leur fille soit éduquée au couvent. On ne peut pas imaginer qu'elles prêtent leur visage à une statue, mais en revanche, Blonde, qui restera toute sa vie dans les murs du couvent, pourrait servir de modèle. Donc c'est comme ça qu'elle va se mettre à poser pour Maître Grégorius et pour son apprenti, et c'est comme ça qu'elle va découvrir toute une dimension d'elle-même qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent.
Là aussi, cet univers de l'enfermement et avec le soleil, l'appel de la liberté, c'est aussi ça, cette histoire. C'est aussi l'histoire d'un destin qui va être contrarié, mais aussi que Blonde va contrarier.
Oui, moi, ce qui m'intéressait, un des thèmes que je voulais traiter dans ce livre, c'est celui de la liberté, de la libération, et surtout dans le cadre d'un roman historique, surtout avec une héroïne dans un siècle où les femmes étaient très contraintes par tout un tas de règles, de lois, d'us et coutumes. Elles ne connaissaient jamais la liberté. Elles passaient de la tutelle du père à la tutelle du mari. Les mariages étaient arrangés. Dans le cadre de Blonde, ça va encore plus loin. Elle n'est censée ne jamais sortir de ce couvent qui est un peu pour elle, au début, comme une prison. Et finalement, elle va prendre le risque de défier toutes ces lois. Elle va prendre le risque d'aimer et de s'échapper de cette prison, avec tout le danger que ça comporte.
D'autant plus que cette belle et séduisante jeune fille a quand même un souci. Petit extrait. En attendant, je dois continuer de me taire et continuer de m'épiler. Car c'est cela aussi, la malédiction du signe de l'ours. Je m'en suis rendu compte peu de temps après ma première crise, en passant ma main sur mes jambes, après ma toilette du matin. Le contact en était rugueux, différent de la douceur à laquelle j'étais habitué. Des poils. Plein de poils blonds, point trop visibles à l'œil nu, mais bel et bien perceptibles au toucher. J'étais transi de honte, mais que pouvais-je faire? Je ne pouvais guère parler de ce problème aux autres pensionnaires, et aux sœurs encore moins. Ma timidité a eu pour conséquence de me faire connaître l'erreur de ma vie. J'ai emprunté une lame affûtée en cuisine et j'ai rasé. Aïe ! Une erreur de débutante, sans doute, mais je m'en étais aperçu qu'après coup, quelques jours plus tard, quand le poil a repoussé. deux fois plus dense, deux fois plus rugueux. Et il était bien visible cette fois-ci, je peux l'assurer. Depuis, je me suis ouvert de cette calamité qui m'afflige à celle des Ursulines avec qui je suis la plus intime, l'officière des chambres, Sœur Félicité. Sans chercher à comprendre la raison de cette pilosité extravagante, elle m'a fait bénéficier d'une recette que je n'aurais jamais cru apprendre de la bouche d'une fille de Dieu. Il s'agit d'un mélange d'eau, de sucre et de miel chauffé à feu doux, duquel forme une mélasse épaisse que l'on roule sur la peau pour en arracher le duvet disgracieux. Combien de fois la bonne Félicité m'a-t-elle remonté les cuisines une pleine casserole de cette mixture ? Le problème, c'est que le poil continue de repousser plus doré à chaque fois. Je donnerais cher aujourd'hui pour mettre la main sur un flacon de cette fameuse eau d'Égypte avec laquelle Bérénice de Beaulieu a fait tomber mes cheveux avant qu'une chute malencontreuse ne la précipite dans un lit d'hôpital. Une chute malencontreuse ? C'est du moins la version officielle, celle à laquelle tout le monde croit. Moi seul connais les événements qui ont précédé cette chute. Ou plutôt, je ne les connais pas, étant donné que j'ai perdu conscience au moment où Bérénice m'a aspergé de son odieuse lotion. J'ai menti à Mère Rosemonde et à Sœur Marie-Joseph en prétendant que je n'avais plus jamais connu de crise depuis ce funeste jour de ma petite enfance où la fureur m'a fait commettre l'irréparable. La vérité, c'est que mes yeux n'ont cessé de rougir depuis que j'ai ôté mes lunettes. La vérité, c'est que Bérénice a été confrontée à mon vrai visage. La malédiction du signe de l'ours ne va qu'en empirant. La voilà la vérité. Alors on n'en dit pas plus. Qu'est-ce que c'est cette malédiction ? Qu'est-ce que c'est que cet accident qui n'en serait pas un ? Voilà. Animal, avec un E, c'est aussi une malédiction, un souci, une inquiétude, une origine, un problème. Il y a quelque chose dans l'histoire de Blonde, mais qu'on va découvrir dans le roman par petites touches. Et là aussi, il y a dans les contes parfois des malédictions, mais dans les romans de Victor Dixen, on peut aussi vaincre par le courage et la détermination les malédictions. Et on retrouve encore une fois, Victor, ce thème chez vous, important dans cette littérature pour la jeunesse, mais encore une fois, que plein d'adultes, c'est mon cas, on peut lire avec beaucoup de plaisir, cette quête de la liberté et de l'indépendance d'esprit.
Oui, pour moi, c'est quelque chose d'important, de penser hors du cadre, d'oser prendre le risque de tout remettre en question pour toucher la vérité, pour toucher sa vérité et pour devenir qui on doit être. C'est le message dans Animal, c'était peut-être aussi celui dans Jack Spark. Et dans les deux romans, on a la figure de la métamorphose qui pour moi est très importante parce que le moment où on peut avoir l'opportunité de cette liberté, c'est le moment où on change. Et le fantastique me permet de mettre ça en scène par la figure donc de la transformation en autre chose, quelque chose de monstrueux peut-être, mais quelque chose aussi qui nous permet d'atteindre la liberté.
Tambour dans la nuit, donc un petit livre sorti par les éditions Griffes d'encre, avec le petit logo Imaginal, donc on a donné notre aval, puisqu'en fait, là aussi c'est presque une histoire d'amour, c'est entre Victor Dixen qui a envie que ce texte, mais bon, jusque-là, il n'y a pas vraiment pratiquement réfléchi, paraissant en livre, parce qu'on a beau avoir une version numérique, quand on est écrivain et lecteur, je pense que ça durera encore un temps, peut-être assez long. L'objet imprimé reste quand même, sans être contre le numérique, moi j'aime le numérique, c'est aussi parfois très utile, mais c'est quand même quelque chose de chouette, un livre papier. Et donc, Griffe d'encre, à qui j'ai fait suivre ce petit texte, en disant... J'ai l'impression que, vu ce que vous publiez, ça pourrait être pour vous. Ils l'ont lu et tout de suite, ils ont été conquis comme moi-même par le texte. Et ils ont pris contact avec Victor. Et en quelques mois, puisque ça s'est fait vraiment à l'automne, en quelques mois, ce petit livre est sorti. Dites-nous un mot, juste parce qu'on ne va pas s'étendre sur ce détail. Comment ça s'est fait, Victor Dixen, et pourquoi vous êtes heureux que ce petit livre sorte exprès pour les Imaginales en tirage limité ?
Effectivement, c'est Stéphanie qui nous a mis en contact avec les équipes de Griffes d'encre qui font un travail fantastique. Elles ont lu le texte, elles m'ont fait d'ailleurs des petites remarques éditoriales très, très, très pointues, très bien trouvées. Donc le texte a aussi gagné en qualité, je pense, par rapport à sa version numérique. Et ensuite, une des grandes satisfactions, ça a été de se lancer dans une recherche iconographique pour trouver l'image qui illustrerait la couverture de ce récit historique, donc qui se situe pendant la campagne de Russie, et plus exactement la retraite de la campagne de Russie. Donc il y a eu tout un tas de peintres qui ont traité ça. Et on a écumé les fonds des musées pour trouver la peinture qui vraiment exprimerait le mieux possible cette ambiance nocturne, crépusculaire que j'ai essayé de rendre dans Tambour dans la nuit. On est tombé sur cette œuvre du peintre Langlois qui lui-même a été officier pendant la campagne de Russie avant de déposer les armes et d'embrasser une carrière de peintre. Et j'ai retrouvé tout de suite, vraiment instantanément, l'univers de Tambour dans la nuit dans cette image. Donc, je suis très content qu'on ait pu l'illustrer ainsi. Et très heureux de voir, pour les imaginales, ce texte exister sous une forme papier, sous une forme matérielle qui est plus sensorielle, plus réelle qu'une forme numérique.
J'ai vu que vous aviez abandonné vos droits d'auteur à une œuvre au Bleuet de France. Et ça renvoie, je le cite, parce que ça renvoie à un des thèmes du festival qui est guerre et paix. Et vous êtes là aussi, pas sur Animal, mais dans ce roman-là, sur ce thème guerre et paix. Dites un mot du Bleuet pour que les gens sachent.
Oui, le Bleuet de France, c'est une fondation qui a été créée après la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux anciens combattants, aux mutilés de guerre, à leurs familles. Donc à l'origine, les anciens combattants confectionnaient des petits bleuets en papier et les vendaient sur la voie publique. Donc ça existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça repart un peu. Et compte tenu du thème de Tambour dans la nuit, c'est une histoire assez dure sur la guerre, sur ses victimes. Il m'a semblé naturel de remettre les droits d'auteur au Bleuet de France. Voilà. Et ils ont lu le texte, ils ont aimé, ils étaient partants, donc ça s'est fait comme ça.
Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est une œuvre qui renvoie à la tradition, à la chose militaire, donc des choses qu'on pourrait imaginer traditionnalistes, et on voit qu'à partir du moment où le texte est beau et respecte un certain nombre de leurs valeurs, ils n'ont eu vraiment aucun problème, bien au contraire, pour accepter, parce qu'ils ne l'auraient pas accordé. Si le texte les avait choqués, leur avait paru
problématique. Il faut effectivement qu'ils lisent, qu'ils apprécient et qu'ils acceptent pour qu'on puisse apposer leur logo et qu'ils soutiennent l'initiative, ce qui a été le cas de manière très naturelle et très sympathique.
Bien, fallait que ça soit dit. Petit extrait là aussi du texte. Je suis sûr que c'était du sang. Paulin détacha ses yeux de l'horizon pour me dévisager. Nous étions montés sur la plus haute terrasse de Smolensk, à l'est de laquelle s'étendait une plaine immense au-delà du Dniepr. Une interminable colonne filait vers le soleil levant, pareille à une fourmilière en déroute. Les soldats russes qui fuyaient la ville après l'avoir incendiée. « Du sang ?» répéta Paulin. « Et alors ? Ce n'est pas la première fois que tu en vois depuis le début de cette guerre, et ce n'est certainement pas la dernière. » Les chaînes en étaient couvertes. Les portes des fourgons aussi. Les hommes du régiment anonyme ont dû se livrer un véritable massacre à travers la brèche ouverte par les artilleurs. Pourtant, ni leurs mains ni leurs habits n'étaient ensanglantés, j'en suis certain. Ce sont leurs molosses, les chiens de guerre. Les chiens de guerre ? Paulin, quelle sorte de chien est capable de faire ce que nous avons vu ce matin dans les rues de Smolensk ? Nous n'avons rien vu, protesta Paulin, sans oser soutenir mon regard. Certes, nous n'avions croisé ni blessés ni cadavres. Mais dans combien de rues, sur combien de parvis, avions-nous aperçu des flaques de sang séché, suivies de larges traits des brunâtres, conduisant des foyers achevant de se consumer ? Des hommes étaient tombés en grand nombre, entre ces murs maudits, au cœur de cette nuit aveugle. Au matin, leur corps avait disparu. Était-ce leurs compatriotes russes qui les avaient jetés dans les brasiers, faute de pouvoir les enterrer, avant de prendre la fuite ? Les habitants demeurés à Smolensk avaient-ils été témoins de ce qui s'était réellement passé sous leurs fenêtres, eux qui se signaient à notre passage derrière les rideaux ? Impossible de le savoir. Nous pensions prendre une ville pleine de vivres et de richesses. Nous récoltions que du silence et des cendres. L'empereur avait ordonné d'enflammer tout l'encens de la cathédrale, mais cela n'avait pas suffi à chasser l'odeur de chair brûlée qui empestait l'air. Quant à Notre-Dame de Smolensk, l'icône qui n'avait pu protéger la ville du désastre, elle avait disparu avec l'armée russe. Nous reprîmes la route dès le lendemain, plus affamés que jamais. Grand Gousier avait beau nous faire entonner l'oignon à tour de bras, chansons et roulements de tambour ne suffisaient pas à nourrir les troupes. Le soleil de la fin août était déjà moins chaud. La brise qui se levait le soir au campement faisait parfois frissonner les chines des soldats et les chevaux à qui on donnait en pâture le chaume des maisons rencontrées en chemin. Pour les hommes, il n'y avait rien d'autre que les plantations saccagées, succédant aux champs calcinés à perte de vue. En dépit de la mystérieuse victoire de Smolensk, des protestations commençaient à s'élever dans les rangs. Napoléon était-il vraiment si puissant, puisqu'il ne parvenait pas à nourrir correctement sa propre armée ? Parmi les officiers, le bruit courait que l'empereur était aussi exaspéré que ses troupes par la politique de la terre brûlée des Russes et par leur fuite incessante vers l'Est. Il voulait livrer une vraie bataille face à une vraie armée et l'écraser comme il l'avait fait avec tous ses adversaires jusqu'à présent. L'occasion se présenta enfin un matin de septembre, lorsque nous parvînmes à un fleuve semblable au Dniepr, la Moscova. Il pleuvait depuis plusieurs jours déjà. L'eau s'infiltrait sous les manteaux et les guêtres, transformant la terre en une mélasse spongieuse dans laquelle s'engluaient les bottes et les sabots. La plaine de la Moscova, large et plate, constituait néanmoins un bon terrain pour s'affronter. On disait que les Russes étaient massés en nombre à son extrémité nord, autour d'un fortin construit à la hâte, défendant l'accès au plus gros village de Borodino et à ses grasses fermes. Voilà, on est au bord d'une bataille historique bien connue. On est complètement dans ce qui va devenir la retraite de Russie et la grande débâcle de Napoléon et ce qui va en fait mettre à bas son pouvoir. Et puis, il s'est passé les choses à Smolensk, une victoire étrange, pas de cadavres, du sang, des molosses, des animaux, un régiment bizarre. C'est l'histoire plus l'imaginaire.
Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'explorer les coulisses de l'histoire, d'imaginer ce qu'il y a dans les ondes, dans ce qui n'est pas dit par les manuels d'histoire. Une fois encore, on a ça dans Animal, on a ça dans Jack Sparks et on a ça dans Les Tambours dans la nuit. Pour moi, le challenge, le défi, c'est de combiner des faits réels, des dates, des personnages historiques avec une part d'imaginaire, avec des personnages inventés et de faire en sorte que la sauce prenne. Que le lecteur y croit et que le temps de la lecture, il se dise « mais c'est comme ça que ça s'est réellement passé ». Et ce que j'aimerais bien que le lecteur ressente à la fin d'Animal, c'est la sensation que Boucle d'Or, c'est un personnage qui a vraiment existé, finalement.
Tout petit extrait. Le rugissement des canons se tut comme par enchantement, laissant la place à un silence épais, poisseux, où cessâmes de jouer sans que grand gousier eût besoin de nous en donner l'ordre. Devant nous, plus noir que le ciel, les murailles de Smolensk s'élevaient toujours. « Ce n'est pas la Vierge qui les protège, » murmura Paulin, hors d'haleine après toutes ces heures à souffler dans son fifre. « C'est le diable, tais-toi, écoute. » Paulin tourna vers moi, son visage narcissique de suie, à demi dévoré par la pénombre. Son arcade sourcilière saignait sur ses yeux brillants de fièvre. Il allait répliquer, mais les paroles restèrent coincées dans sa gorge. Il venait lui aussi d'entendre les percussions. « Qu'est-ce que c'est, » dit-il, « les tambours d'un autre régiment ? Je ne connais pas cet air. » « Moi non plus. » Je ne le connaissais pas. Il ne ressemblait guère à ceux que Grand Gousier nous avait appris à jouer. Il commençait brutalement sur un tempo de pas de charge, puis se brisait soudain pour s'abîmer dans la lenteur d'une marche de nuit avant de redémarrer de plus belle. Le résultat rappelait les musiques orientales que l'on entendait parfois le soir du côté des tentes des Mamelouks, martelées sur des dos de casseroles. Mais cette nuit-là, ce n'étaient pas des casseroles qui résonnaient dans le noir, c'était des tambours. Or, les bataillons de Mamelouks n'en possédait point. Peut-être que ce sont les habitants de la ville, suggéra Paulin. Sa voix manquait de conviction. Voilà, là aussi, le mystère qui rôde, la peur qui rôde. Finalement, ces soldats de la grande armée semblent avoir encore plus peur de ce régiment mystérieux que de leurs adversaires russes.
Oui, juste pour recadrer effectivement les tambours dans la nuit, c'est l'histoire d'un jeune tambour qui s'engage dans l'armée napoléonienne, plein d'idéaux à l'époque où la France entière suivait donc l'effort de conquête de l'empereur. Il s'appelle Pierre Valandrin et il va partir fleur au fusil vers Moscou dans ce bel été où tous les villages tombent les uns après les autres. Il va donc rencontrer Paulin, un ami de son âge, qui lui est fifre. Fifre, c'était les joueurs de flûte dans l'armée. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée et de la reculée des Russes vers Moscou, ils vont se rendre compte que dans les rangs de la grande armée, il y a un régiment anonyme, on ne sait pas d'où il vient, un régiment qui officie la nuit, lorsque toutes les lumières sont éteintes. Et au matin, les villes qui résistaient tombent systématiquement et on découvre un bain de sang qui est sans doute l'œuvre de ce régiment anonyme. Donc c'est une angoisse qui naît au sein de la Grande Armée par rapport à un régiment qu'elle accueille mais dont personne ne sait rien.
Le temps passe avec cette conversation, on ne se rend pas compte et je me dis qu'on va bientôt arriver aux dernières minutes de cet échange, de cette rencontre avec Victor Dixen, le coup de cœur 2014 des Imaginales. Alors on va quand même repartir un peu en arrière, après avoir donné envie, je crois, de lire Animal et aussi Tambour dans la nuit. Le cas de Jack Sparks, donc un petit extrait du volume 2 pour situer les choses. Il s'agit là aussi de l'histoire d'un, et de plusieurs, mais d'un adolescent qui est envoyé par ses parents dans un étrange camp de rééducation pour jeunes un peu différents. Au final, si Ned ne parvenait pas à révéler aux Sparks la vérité nue, il lui fallut la couvrir pudiquement d'un voile d'approximation et d'omission. Comment expliquer ce qu'avait été réellement Red Rock à ceux qui ne l'avaient pas vécu ? Elle leur parla ainsi des tortionnaires qui dirigeaient le camp, mais sans aller jusqu'à employer le mot « fait ». Elle se contenta d'évoquer les preuves épuisantes du baquet de Mesmer et les autres bizarreries instaurées par le docteur Krampus, ce médecin fou qui avait fait ses armes dans un hôpital militaire autrichien lors de la dernière guerre mondiale. Elle raconta l'invasion du camp par une horde de créatures semi-humaines, résultat peut-être des manipulations génétiques pratiquées par le terrible médecin, puis l'intervention providentielle de l'armée. Enfin, elle termina par le récit de la poursuite du docteur Krampus jusqu'au Pentagone, où il s'était rendu pour lâcher une bombe atomique sur le théâtre de ses macabres expériences et éviter ainsi d'en laisser les moindres traces. La jeune fille jugea en revanche préférable de ne pas mentionner l'existence de l'entité ni celle de Morgan Faraday, et elle fit l'impasse sur la bataille du bunker présidentiel. « C'est de la soute de l'avion militaire qui nous emmenait à Washington que Jack vous a téléphoné, vous souvenez-vous ?»« Oui, dit Mrs. Park. Et tu es la fille qui nous a parlé avant que la communication coupe sa petite amie ? Je suppose qu'on peut dire les choses comme ça. » Alors, on ne va pas tout révéler parce que déjà, mais les gens vont oublier très vite ce que j'ai lu. On a bien compris qu'il s'était passé quand même des choses terribles dans ce camp. On a bien compris que ce jeune ne va pas passer vraiment... c'est pas vraiment les... Comment on pourrait dire ça ? Vous savez, quand... on fait beaucoup moins ça maintenant, mais ces camps de vacances où parfois les parents, pour être tranquilles, en pensant que c'était pour notre bien, nous envoyaient en colonie de vacances. Bon, là, quand même, c'est une colonie quand même un peu spéciale.
Oui, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Alors, j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, dans le Colorado, dont je me suis inspiré pour Jack's Park. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ces camps qu'on appelle les Teenage Boot Camp, où les parents qui ne réussissent plus à contrôler leurs ados les envoient, et c'est souvent des personnels militaires ou anciennement militaire, qui va mater les ados. Donc, c'est ce qui arrive à Jack. Lui, il n'a rien demandé parce qu'il est simplement insomniaque. Et donc, on a tout essayé pour le faire dormir. Rien n'a fonctionné. Et dans ce camp de Red Rock, très isolé, on prétend pouvoir régler tous les problèmes d'ados, quels qu'ils soient. Donc, ses parents, en désespoir de cause, vont l'y envoyer. Il va rencontrer d'autres ados qui ont tous été envoyés là pour une raison particulière. Donc, il y en a qui sont hyper violents, il y en a qui sont kleptomanes, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Tout un tas une galerie de portraits un peu inquiétante. Mais surtout, le personnel qui est aux commandes de ce camp, extrêmement étrange. Ce sont des gens qui ne sortent que la nuit, on ne les voit pas pendant la journée. Et il est impossible de s'échapper de ce camp qui est très isolé dans les montagnes rocheuses du Colorado. Donc Jack et d'autres amis qu'il va se faire sur place, ils vont se rendre compte que c'est une vraie prison. Ils vont tout faire pour s'en échapper. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que les méthodes médicales ou pseudo-médicales qui sont employées soi-disant pour soigner les ados vont avoir chez Jack des effets inattendus, déclencher chez lui des réactions étranges. Il va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas complètement humain. Donc on retrouve une fois encore la figure de la métamorphose qui m'interpelle tant et que j'ai traité aussi dans Animal.
On repart à la saison 1, était mutant, toujours le cas de Jack Sparks. Et donc ce personnage, enfin des personnages, il y a aussi des personnages secondaires tout à fait attachants. Donc il y en a un qui est là parce qu'il est insomniaque. Tiens, on n'a jamais été dans un camp comme ça, je vous rassurez, nous. Et d'autres ados, parce qu'ils sont violents. Et un autre ado, visiblement, y est pour une autre raison. Petit extrait. Je ne sais que répondre à Josh. En fait, je ne sais même pas s'il attend une réponse de ma part. Nous cheminons un long moment, l'un à côté de l'autre, en silence, et je revois défiler dans mon esprit toutes les fois où je me suis senti observé. Je croyais qu'il m'épiait pour me trahir, mais c'est moi qui trahissais ses sentiments. Ce que Sinéad m'a infligé, je l'ai infligé à Joss. La différence, c'est que l'histoire finit bien pour moi, et mal pour lui. Dans le fond, nos histoires se ressemblent. Chacun à notre manière, nous sommes différents. Différents de nos amis, dont nous devons reconquérir la confiance. Différents de nos parents, qui doivent apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Le père de Josh n'y est pas parvenu. Et mes parents à moi, s'ils apprennent qui je suis vraiment, auront-ils la force de surmonter la peur et la déception ? Je suis sûr que tu rencontreras un gars bien le moment venu. Je pose ma main sur son épaule. Alors même que je l'esquissais, je craignais confusément que ce geste ne révèle je ne sais quoi, qu'il soit interprété comme je ne sais quelle promesse. Mais je me rends compte à présent qu'il n'en est rien. C'est un simple geste de réconfort, un geste que peuvent se permettre deux amis, même si leurs cœurs ne battent pas à l'unisson. Et je me sens moi aussi plus serein. J'espère qu'il sera aussi bien que toi, dit simplement Josh. En attendant, merci de m'accepter comme je suis. Tu plaisantes, mon ami. Merci à toi de m'accepter comme je suis. Accepter, c'est bien le maître mot. Je sais que je ne comprendrai jamais comment fonctionnent les sentiments de Josh. Jamais je ne verrai les garçons comme il les voit, avec ses yeux. Et lui, il ne verra jamais Sinéad avec les miens. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de comprendre l'autre pour l'accepter. L'amitié ne part pas de la raison, elle part du cœur. Un beau passage, on a compris quand même, même si le terme n'est pas prononcé, que ce jeune garçon et son ami, ils n'ont pas les mêmes goûts. C'est-à-dire que l'un de ces garçons aime les filles et l'autre pas vraiment.
Voilà, donc tous ces ados ont été envoyés à Red Rock pour des raisons particulières, et Josh en particulier, qui est un des personnages les plus mystérieux du roman au début. Il est tout le temps habillé en noir, il a les poignets bandés. On se rend compte qu'il a sans doute fait une tentative de suicide à un moment donné. Très silencieux, très, très replié sur lui-même. Va se révéler être gay, en fait. Et il a été envoyé par son père, qui est un pasteur intégriste, un télévangéliste, comme il y en a effectivement aux États-Unis, qui intervient de manière très virulente à la télévision, et qui a décidé de l'envoyer dans ce camp, justement, pour le soigner de ce qu'il considère être une anormalité, une maladie. Et finalement, tous ces ados rejetés pour des raisons différentes vont s'accepter les uns les autres, et c'est par la solidarité qu'ils vont trouver le courage de devenir qui ils sont et d'embrasser leur destin.
Ce qui est frappant dans la littérature jeunesse que vous écrivez et que vous publiez, Victor Dixon, il n'y a jamais de prêchi-prêcha. On voit bien ce passage. C'est tout simplement, les choses sont là, elles sont naturelles, et finalement, l'amitié et le cœur sont plus importants que les préjugés et les idées reçues. S'il y avait un message, entre guillemets, dans vos romans, c'est la liberté et l'acceptation des différences, encore une fois, sans en faire une affaire d'État.
Oui, moi je pense que la plus grande des richesses humaines, c'est la diversité et la différence. C'est parce qu'on est différent qu'on peut se nourrir les uns des autres. La créativité vient aussi de la différence, et l'uniformité tue la créativité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une conviction très forte que j'ai, que j'essaye d'exprimer dans mes livres. Et comme vous dites, j'essaye d'éviter les propos moralisateurs ou les romans à thèse. C'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je fais confiance à mes personnages. Je les laisse vivre, je les laisse évoluer. Et s'il y a une morale, elle naît de leur comportement et de leur choix. Mais je n'essaye pas de la plaquer en tant qu'auteur par-dessus.
On va devoir se quitter, même si on se retrouvera encore après-midi et demain dans d'autres rencontres. Mais pour terminer cette rencontre avec vous, Victor Dixon, notre coup de cœur 2014, si je vous demandais, entre des livres quand même assez différents, comme le cas Jacques Spark, je rappelle Grand Prix de l'Imaginaire hein, quand même, sur Animal, Tambour dans la nuit, cette petite novella un peu plus adulte, et qu'est-ce qui fait l'unité de votre romanesque, de votre fantaisie, de votre littérature?
Question difficile. Je pense que je fonctionne plus par thème qui m'interpelle et que je traite sous des angles différents dans chacun de mes livres. Sans doute la quête de l'identité, la quête de son identité, la conquête de son identité, c'est ce qui me plaît le plus. C'est sans doute ce pourquoi j'écris pour la jeunesse, sans doute ce pourquoi je mets en scène des héros adolescents, parce que c'est à cette époque de la vie, au début de la vie, qu'on fait les choix qui vont nous déterminer et qu'on a le courage de tout remettre en cause, peut-être. Moi, ça me passionne. Littérairement, je trouve que c'est très stimulant, et c'est ce que j'essaye d'explorer. Et le fantastique me permet d'aller plus loin dans ce questionnement, plus loin dans des questions existentielles qui sont des vraies questions, des questions réelles, mais que le fantastique, finalement, met à la puissance 10.
Eh bien, ça sera, je crois, une belle conclusion. Victor Dixon, Tambour dans la nuit, cette belle novella fantastico-historique aux éditions Griffes d'encre, plutôt pour les adultes. Redécouvrir le début de l'œuvre, 4 volumes, les 2 premiers viennent d'être édités en poche. C'est donc le cas Jacques Spark, Été mutant et Automne traqué. Et puis évidemment la belle nouveauté, La malédiction de boucle d'or, Animal, ce très beau roman pour jeunes, j'en vois qui ont déjà lu, qui hoche la tête. Vraiment, je le recommande aux adolescents, je recommande à leurs parents de leur faire un beau cadeau, et en plus, ils y gagneront parce que très vite, ils iront lire derrière leur épaule. C'est vraiment un très très beau roman, et Victor Dixon, vous êtes vraiment, et c'est pas pour rien, le coup de cœur 2014 des Imaginales. Merci.
Merci.